Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui est devenu pour vous l'évangile de dimanche dernier? Je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs ou serait-il tombé sur un sol pierreux ou vous avez peut-être eu des soucis cette semaine qui vous ont fait tout oublier? Ou alors des choses qui vous ont passionné, qui vous ont aussi fait tout oublier. Voilà. Alors si vous ne vous souvenez pas bien de l'évangile de dimanche dernier, ça vaut la peine que je commente l'évangile de ce dimanche. Alors, il y a une première chose que j'aimerais vous dire à propos de cet évangile. Donc nous sommes au chapitre 13 de saint Matthieu. C'est un chapitre qui va être consacré à des paraboles. Et dans ce chapitre, donc, il y a la parabole par excellence qui est celle du semeur, mais il y a aussi une explication donnée par Jésus lui-même. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et donc Jésus répond et donne une explication. Et dans l'explication que donne Jésus, il me semble qu'on ne peut pas considérer les paraboles simplement comme un message imagé. Bon, vous n'êtes pas trop doué, donc je vais vous prendre quelques images pour que vous compreniez un peu mieux. Ce n'est pas ça les paraboles. Ce n'est pas comme ça en tout cas que Jésus explique la parabole. Le problème n'est pas tellement un problème de compréhension intellectuelle. Parce que la parabole, le sens de la parabole en tout cas, est accessible non pas à l'intellectuel, mais aux croyants. Dans ces paraboles, Jésus veut nous faire aller plus avant dans le mystère de Dieu, le mystère du royaume de Dieu. Et justement, ce royaume, c'est ce qui échappe à l'homme, laissé à ses seules forces. Fut-il le plus grand philosophe, le plus avisé des savants? Alors quand même, l'évangile de dimanche dernier, ça vous dit peut-être quelque chose. Cette parole, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et c'est exactement ce qui se passe dans les paraboles. Quelque part, le sens des paraboles échappe aux sages et aux savants, et il est accessible aux tout-petits. Et justement, donc l'évangile de dimanche dernier, c'était le chapitre 11 de saint Matthieu, et la liturgie dominicale a sauté le chapitre 12 pour passer directement au chapitre 13. Et dans le chapitre 12, qu'est-ce qui se passe? Vous qui connaissez par cœur vos évangiles, dans le chapitre 12, il y a des confrontations avec les pharisiens. Alors, à un moment, Jésus fait une guérison, bien sûr, le jour du sabbat. Alors, donc, ils sont choqués. Après, il chasse un démon, mais il dit, mais c'est par Belzéboul qui chasse les démons. Donc, eux n'acceptent pas, n'accueillent pas, justement, cette révélation de Jésus, parce qu'ils ont leurs idées sur le Messie, etc. Et du coup, ils ne sont pas en mesure d'accueillir Jésus. Donc, on pourrait dire que les paraboles, ça ne sépare pas les imbéciles des gens qui sont doués, mais plutôt les croyants des incroyants. Les paraboles sont accessibles pour celui qui accepte de croire. Et pour ça, il faut une certaine humilité de l'intelligence. Et encore une fois, si c'était juste un problème de communication, les paraboles aideraient à mieux communiquer. On ne voit pas pourquoi Jésus aurait fini sur la croix, si c'est juste une mauvaise compréhension des gens, non. Non, il y a quelque chose de plus profond. Voilà, ça c'était un premier point, il y en aura seulement un deuxième, mais dans le deuxième il y a quelques tiroirs, donc rassurez-vous. Le deuxième point c'est, voilà, il y a des résistances. En nous, il y a des résistances pour comprendre les paraboles. Et je vous donnerai trois résistances. Il me semble que la résistance la plus importante en nous pour comprendre, pour accueillir les paraboles, c'est que Jésus, par ses paraboles, nous offre une vision de Dieu, du monde, de la vie, qui nous déroute complètement. Alors, par ces paraboles, on est comme obligé de changer de référentiel. C'est un peu comme ceux qui ont dû passer mentalement du système de Ptolémée au système de Copernic. Alors, c'était un peu compliqué pour eux. Il y a quelque chose d'assez déstabilisant, là, pour les pharisiens, par exemple, le fait que ce qui soit premier, ce n'est pas l'observation de la loi, c'est la grâce de Dieu qui est première. Alors ça, c'est un vrai renversement pour eux. Alors cette annonce du royaume qui nous est faite par Jésus dans les paraboles n'est pas comme une annonce qu'on ajouterait à d'autres. Je ne sais pas, vous avez déjà toute la collection des livres sur les différentes religions, vous ajoutez le livre sur la religion de Jésus en plus dans votre bibliothèque. Non, ce n'est pas comme ça. Justement, ce que nous donne Jésus, ça a la prétention de remplacer tout ce qu'il y a avant. Ou pour prendre une autre image, vous utilisez des logiciels pour beaucoup d'entre vous. Alors, il y a des petites mises à jour de temps en temps, voilà. Et là, c'est une méga mise à jour. Alors, vous voulez travailler comme vous travaillez avant, c'est impossible. Il faut changer, il faut tout changer. Et alors, la manière de présenter de Jésus, c'est vraiment, on pourrait prendre cette expression, une méga mise à jour, alors qui fait que si on n'accepte pas d'entrer dedans, ben, on est perdu. Et il me semble que ça, c'est peut-être la question la plus fondamentale, accepter d'entrer dans cette méga mise à jour qui vient transformer notre conception de Dieu, qui vient nous déstabiliser profondément. Une deuxième résistance à accueillir la parole de Dieu, il me semble que c'est que cette méga mise à jour entraîne aussi des conséquences très pratiques. Et une de ces conséquences, c'est d'apprendre à se laisser guider par Dieu. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand on aime bien conduire sa voiture et qu'en plus on considère qu'on est un bon conducteur, alors c'est pas toujours facile de laisser le volant à quelqu'un d'autre. Et alors là, on est justement dans ce... Jésus nous invite à lui laisser le volant à lui. Alors peut-être que les pharisiens voulaient garder le volant et ça marche pas. Mais si on accepte de laisser le volant, finalement, c'est assez confortable de se laisser conduire. Mais laisser le volant, ça reste quelque chose qui peut nous être difficile. Troisième élément, donc, pour cette résistance, une première résistance, donc, c'est un changement complet dans notre conception de Dieu et du royaume de Dieu, de la vie. Deuxième changement, ce fait de se laisser guider et de ne plus tenir soi-même le volant. Troisième changement, c'est les terrains qui sont évoqués dans l'évangile de ce jour. Justement, cette révélation de Jésus, il y a des obstacles en nous à la germination, à la croissance de la parole. Alors, on pourrait dire que le premier terrain, je ne vais pas développer, pour ne pas être trop long, mais le premier terrain, c'est une forme de superficialité. Alors, la parole glisse, comme sur les plumes d'un canard, ça ne rentre pas et on ne se laisse pas atteindre, on n'est pas assez vulnérable. On ne lui offre pas le silence ou l'espace pour que cette parole puisse vraiment pénétrer en nous. Le deuxième terrain, là, c'est les terrains pierreux. Alors, c'est un lien, ça a à faire avec la souffrance dans notre vie. Alors, quand on est confronté à la souffrance, Inévitablement, cette parole, elle entraîne un combat dans notre vie. Ça ne va pas de soi d'accueillir la parole de Jésus, ça remet des choses en question. Ça, quelquefois, du coup, ça entraîne certaines épreuves dans notre vie. Et alors, bon, comme tous, hein, on n'aime pas les épreuves, on n'aime pas la souffrance. Et puis les ronces, à l'inverse de l'épreuve, ce serait plutôt la séduction de la richesse, la force des désirs. Alors du coup, la parole n'a plus la priorité, notre esprit est pris par autre chose que par cette parole. Voilà, donc, les paraboles, ce n'est pas pour des gens un peu attardés mentalement, mais pour des croyants, des gens qui acceptent de faire confiance à Dieu. Et alors, quand on entre dans cette voie, donc ça, notre conception de Dieu change. Et ça, très concrètement, ça remet un peu de l'ordre dans notre vie. Alors, pour terminer, je pourrais reprendre une remarque de Saint Jean Chrysostome qui dit que, mais quand même, le semeur, je reviens juste un tout petit peu en arrière, je trouve que c'est quelque chose de beau de présenter Dieu comme un semeur, le Messie comme un semeur. Il sème, il ne nous impose pas, il sème après, il laisse notre liberté. Voilà, on voit que Dieu, ce n'est pas un potentat qui nous impose les choses, mais voilà, il sème. Mais alors donc, Saint Jean Chrysostome dit, mais alors ce semeur, il n'est pas très doué, il aurait pu bien viser, puis pas viser sur le chemin, tant qu'à faire. Mais voilà ce qu'il dit. Dans le domaine spirituel, ce n'est pas comme dans le domaine matériel. La pierre peut devenir une terre fertile, le chemin ne plus être foulé par les passants et devenir un champ fécond. Les épines peuvent être arrachées, permettre au grain de fructifier librement. Donc, par cette parole, le Seigneur ne veut pas nous jeter dans le désespoir, mais au contraire, nous donner une espérance de conversion et nous montrer qu'il est possible de passer des états précédents à celui de la bonne terre. Voilà, accueillir la parole. Alors, le modèle de l'accueil de la parole, c'est Marie. Et accueillir la parole, comme on l'a vu, c'est comme accepter une nouvelle naissance. Alors, demandons à Marie, la Mère de Dieu, d'accompagner cette naissance en nous. Déjà par le baptême, nous sommes nés de nouveau, mais ce qui s'est fait dans le sacrement doit se faire aussi concrètement dans notre être, que nous naissions une nouvelle conception de Dieu, une nouvelle manière de voir Dieu, une manière aussi, une nouvelle manière d'agir. Amen.